Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Le Rav Yecheskel Sachme, qui est décédé il y a quelques années, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron. Vous savez que Hebron, c'est le nom d'une ville, là où sont enterrés les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et leurs épouses, sauf Rachel, qui est enterrée à Bethléem. Et ça a toujours été un lieu où les Juifs ont résidé, malgré les... C'est important de savoir ça. Malgré l'agressivité des Arabes du coin, les Arabes de Hebron sont réputés comme étant les plus agressifs. À titre d'exemple, en 1929, la population arabe, on était bien avant la création de l'État d'Israël, donc l'État d'Israël était sous mandat britannique, il y avait des troupes anglaises pas très loin, avait décidé d'exterminer les Juifs. D'abord, il y avait eu une première alerte, ils avaient tué, assassiné 6 étudiants de la yeshiva de Hebron, justement, qui se rendaient à leur étude, des jeunes gens. Puis après, un beau jour, ils ont décidé de rentrer dans le quartier juif et de massacrer tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et ça a été, quand je vous dis, un pogrom dans la pire des traditions tsaristes, c'est bien le cas. Il y a d'ailleurs là-bas, dans la vieille ville de Hebron, un endroit, une sorte de cave qui leur a été consacrée. Je peux vous dire que les images des quelques photos qui ont été prises après, en noir et blanc, sont insoutenables. Donc, c'est une communauté qui a beaucoup souffert et qui a quand même résisté. Et après la création de l'État d'Israël, une communauté a tout, donc je répète, pendant toute l'histoire, il y avait des Juifs là-bas, comme en témoigne le vieux cimetière juif de Hebron, qui est dans la ville, la vieille ville de Hebron, occupée par les Arabes. C'est pas le contraire. Et moi j'ai, grâce à un de mes amis, qui s'appelle le rabbin Langage, qui était rabbin en France pendant des années, notamment à Cannes, certains l'ont connu. Il a, avec sa famille, c'est pas un homme riche, mais très amoureux de la terre d'Israël, il a réhabilité le cimetière, et on a trouvé là-bas des tombes du Moyen-Âge, de toutes les époques. Et alors il y a eu un épisode, comme j'aime bien vous raconter quelques épisodes poignants de notre histoire, comme on l'a fait lors des derniers cours. J'ai visité moi-même cette communauté là-bas dans la vieille ville qui est donc peuplée par des Arabes, dont l'un des rabbanim était un homme extraordinaire qui s'appelait le Rav Levinger. Et cet homme-là se promenait en pleine ville arabe dont je viens de vous décrire l'agressivité, sans escorte, sans armes. Et jamais les Arabes n'ont osé le toucher. Ils étaient persuadés que c'était un chnoun, un génie. Et moi, je l'ai vu se promener là-bas, c'était impressionnant. Et on m'a raconté là-bas, quelqu'un qui a vécu là-bas, une histoire poignante. Donc, malgré l'interdiction faite par les autorités israéliennes après 1967, quand Hebron a été de nouveau récupéré par l'État d'Israël, les autorités israéliennes ne voulaient pas exciter les Arabes et ont interdit aux Juifs de s'installer là-bas. Voilà pourquoi a été créée une ville juste à côté qui s'appelle Kiryat Arba, qui est une ville ultra-moderne, peuplée de plusieurs milliers d'habitants juifs. Mais dans Hebron même, il n'y a que les Arabes qui habitent, à part un tout petit quartier. Et là-bas, dans ce petit quartier, Il y a quelques vestiges juifs dont je vais vous raconter, à part le cimetière, une histoire tout de suite. Une petite synagogue qui s'appelle Abraham Avino. Pourquoi ? Parce qu'après 167, les juifs sont retournés là-bas et ils ont voulu, c'était Kippour. Ils ont voulu faire un minyan. Ils arrivent le soir de Kol Nidre, ils se comptent, ils étaient 9. Pas avoir minyan à Kippour, c'était invraisemblable. Ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient en train de se demander comment ils allaient en sortir, évidemment dans l'environnement, je viens de vous le décrire. Et puis tout le monde se retourne, et puis tout d'un coup on voit un vieillard que personne ne connaissait entrer dans la synagogue. Et il est resté. Alors évidemment, ils ont pu commencer Kol Nidre, faire la prière, ils terminent l'office, et ils veulent aller le remercier, il avait disparu. Et tout le monde disait, c'est Abraham Avinu qui est venu compléter le minyan. Voilà pourquoi elle s'appelle cette synagogue. On peut la visiter encore aujourd'hui, synagogue de Abraham Avinu, Hebron dans la vieille ville. Sur le cimetière. Donc après les faits que je viens vous expliquer, les Israéliens interdisent aux Juifs, c'est un comble, s'installer à Hebron, ils vont donc à Kiryat Arba. Et là-bas, il y a une dame qui, avec son mari, a eu un petit bébé, un petit garçon. Et ce petit garçon, malheureusement, quelques jours après la Mila, il est décédé. Alors sa maman a décidé de l'enterrer dans le vieux cimetière de Hebron. Bon, les autorités israéliennes en entendent en non-vent, ils interdisent l'inhumation. Qu'ont fait les juifs de Kiryat Arba, je répète, quelques milliers de familles, donc ils avaient peut-être 100, 200 voitures, ils décident d'aller en procession, tous, sans armes ni rien du tout, mais pacifiques, pour accompagner cette maman enterrer son bébé. Mais ils ont planqué le corps du bébé sous un siège de la voiture, sans dire quelle voiture s'agissait. Alors il y avait à l'entrée de Hebron une patrouille de soldats israéliens, ils fouillent 1, 2, 3, 10, 20 voitures, ils ne trouvent pas, puis après ils en ont marre, ils ont laissé passer, puis donc ils ont pu passer. La maman, elle arrive devant la porte du cimetière, les grilles sont fermées, et devant les grilles, un soldat israélien de faction qui avait reçu des ordres. Alors elle arrive devant le cimetière, soldat lui dit, on n'entre pas. J'ai connu cette dame. Alors elle dit, soldat, elle dit, je vais enterrer mon fils Abraham. Comme Abraham a enterré Sarah ici, moi, Sarah, je vais enterrer Abraham ici. Soldat ne se laisse pas faire, il ne s'aide pas. Elle dit, j'attendrai. Elle a attendu toute la journée. Finalement, au bout de plusieurs heures, le soldat, il craque et il la laisse entrer. Et cette pauvre dame se trouvait avec son bébé dans le cimetière. Il n'y avait personne. Il fallait creuser une tombe, c'est impossible. Le sol de Hebron est connu comme le leader Rachid dans la paracha de cette semaine de Shelach Lecha. On dit pourquoi on en a fait un cimetière à Hebron, parce que c'est une terre de rochers. C'est vrai. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé le corps de son bébé par terre. Elle a pris des pierres, elle l'a posé dessus. Elle lui a fait une sépulture comme ça. Et on peut encore voir aujourd'hui ce tas de pierres où est enterré le bébé Abraham. Voilà. Excusez-moi. Bien. Alors pourquoi j'ai raconté ça?
Le Rav Jiriski.
Ah, Frazal. Le Rav Sachne, qui était le Rav de Hebron, de la Yeshiva. Et après, cette yeshiva a été transférée à Jérusalem, où elle existe toujours. Elle s'appelle Yeshiva Trevron, bien qu'étant Jérusalem. Et pendant qu'ils y étaient là-bas, les Juifs, contre l'interdiction des autorités, je répète une dernière petite histoire, avec un de mes amis qui était le maire à l'époque de Kiryat Arba, j'ai visité ce qu'on appelle là-bas l'hôpital Hadassah. Après, il y a un hôpital à Jérusalem qui est devenu un très grand hôpital, qui a repris ce nom. Mais à l'origine, l'hôpital Hadassah était à Hebron. En fait, l'hôpital, c'était une grande maison en plein milieu du quartier arabe dans laquelle il y avait rien. Il n'y avait même pas d'eau courante. Alors les Israéliens, donc, vous savez, ils n'ont jamais été tendres avec leurs frères. On a vu quand ils ont expulsés de Gaza, par exemple, plus récemment. Ils ont interdit l'implantation des Juifs. Évidemment, il y avait quand même des gens qui ont résisté. Et ils se sont installés dans ce fameux, entre guillemets, hôpital Hadassah, qui était devenu une sorte d'îlot de la présence juive à Hebron, soit pour que jamais la présence juive cesse à Hebron. Merci. Et ils m'ont raconté que comme ils étaient là-bas, il y avait des femmes, des enfants, sans aucune, même pas de confort, il n'y avait aucune hygiène sanitaire possible. Alors, il y avait des juifs donc, qui leur apportaient tous les jours des seaux d'eau et puis des bouteilles d'un produit pour verser sur les déchets humains pour éviter que ça contamine. Je voulais comment s'appelle ce produit. On l'utilisait dans les camps scouts. Bon. Le nom m'échappe maintenant. Et ils ont vécu comme ça. Et puis les Israéliens sont aperçus que grâce à ça, ils réussissaient à tenir le coup. Ils ont interdit qu'on ne ramène rien d'autre que de la nourriture et de l'eau. Alors, évidemment, tout ceci, ce que je vous raconte maintenant, c'est fait grâce à la complicité bienveillante quand même des soldats. C'était leur frère. Quand ils amenaient à du grésil, ça s'appelle du grésil, ce produit qui permettait, autrement, hygiéniquement, c'est impossible de tenir, et à cause des maladies, des infections, des odeurs, etc. Donc, eux, ils s'étaient aménagés un coin comme ça, et ils mettaient ce grésil dans des paniers, et sur le panier, ils mettaient des aliments, du pain, des... Quand ils arrivaient devant les soldats qui tenaient la garde là-bas, c'est quoi ça? La nourriture, ils passent. Ils ont comme ça, ils ont fermé entre guillemets les yeux. Mais c'est incroyable, moi j'ai vu de mes propres yeux, j'étais là-bas en 68, comment ils ont vécu. Imaginez une grande salle, sans aucun confort, je répète. Ils avaient mis des meubles pour faire des séparations de chambres, où les parents dormaient d'un côté. Les enfants, il y avait des enfants en bas âge de l'autre côté, et c'est tout, ils avaient leurs vêtements, et rien d'autre. Un seau d'eau pour faire une petite toilette sommaire le matin, et ce grésil à ce produit qu'on mettait sur les excréments, et ils avaient de quoi manger. C'est incroyable, on ne réalise pas à quel point nos frères ont souffert pour garder la présence juive sur la terre d'Israël, notamment à Hebron. Bon, ferme la parenthèse. Alors, ce rave, lui, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Daliot Yecheskiel, c'est-à-dire la ligne de Yecheskiel, son prénom, sur lequel il y a un mahamar extraordinaire dont vous avez la copie. On va vite le faire. Ici, d'abord, Tanoura Banane, le numéro 1, je crois que je faisais le numéro de téléphone, des trucs. Alors, numéro 1, là-bas, on va le lire ensemble. Tanoura Banane, Vayi bin soa Aaron, vayomer Moshe. Parashazo, asa la akadosh baruch hu simaniot, milemala ou milemata. Lomar she en zemekoma. Alors, dans la Torah, vous savez bien qu'il n'y a pas de point, qu'il n'y a pas de ponctuation, et qu'il n'y a pas de fin de verset. Et voilà que dans une parasha de la Torah, la parasha de la semaine dernière, Be'alotecha, il y a deux versets qui sont entourés de deux nouns à l'envers, comme c'était une parenthèse. Alors, la Gemara demande là-bas, c'est Gemara dans Shabbat, page 116, Davkouf Tetzain, pourquoi ? Elle nous dit pour nous dire que ces deux versets ne sont pas à leur place. Dans ces versets qu'il y a, on nous raconte comment les bénis Israël se déplaçaient dans le désert, et au moment ils étaient guidés par une colonne de feu la nuit, et une colonne de nuée le jour. Et Moshe disait, Ayomer Moshe, quand il devait se déplacer, Kouma Hashem, lève-toi Hashem et que tes ennemis se dispersent devant toi. Et à foutre, on verra Mipanefa. Et quand il s'arrêtait, Uvnuchoyoma, quand il s'arrêtait, il disait, Shuvah Hashem, Revot Alfei Israël, reviens Hashem auprès de tes enfants. Et la colonne de nuée qui marchait verticalement, comme une tornade, si vous voulez, elle s'arrêtait et elle se mettait horizontale devant au sol. Et là-bas, les bénis Israël comprenaient qu'ils devaient camper. Voilà comment ça s'est passé pendant 40 ans. Ok. Alors, tout ce paracha donne ce descriptif. La Gemara demande pourquoi on a mis des signaux avant et après ces deux versets, qui comprennent en tout 85 lettres, pour nous dire que c'est un sefer entier. De là, on apprend que lorsqu'un sefer Torah a au moins 85 lettres entières, il faut le sauver d'un incendie, même s'il ne faut pour cela profaner le Shabbat, transporter le sefer Torah dans un endroit public. Autrement, on n'a pas l'obligation de transgresser le Shabbat pour le sefer Torah. Mais on nous apprend ici autre chose. On nous dit, elle n'est pas à sa place. Et alors, pourquoi on l'a mise ici ? Voilà la réponse qu'on va étudier maintenant ensemble. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Atida Parashazo, j'étais à Ké, Amikan, Fetikatem et Bimkoma. Fenama Ketava Kan, pourquoi l'a-t-on écrite ici ? Kede Leafsik, voilà la phrase importante du cours. Kede Leafsik, ben pour Anout Rishona, les pour Anout Shenia. Pour séparer, dans la lecture de la Torah, un châtiment d'un autre châtiment. Rambam explique, il dit, pour Anout Shenia, Maïhim, c'est quoi la pour Anout Shenia, le deuxième châtiment? Vaïyaham, Kemitonim, Rabbe Ozne Hashem. C'est quoi la deuxième pour Anout? Elle est écrite mot sur blanc dans la Torah. Le peuple a commencé à se lamenter aux oreilles de Hashem en disant, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous sommes là dans le désert, on manque de tout, nous n'avons rien, et nous voulons de la viande. Alors, ça va déclencher évidemment la colère de Hachem, parce qu'ils ont ajouté évidemment, on se souvient, Zachar nous est adaga, de le poisson que nous mangeions en Égypte, nous mangeions les concombres, les citrouilles, les poivrons, etc. Et maintenant, on n'a pas besoin, on n'a que la manne. Cette manne malheureuse. Alors, entre parenthèses, le maître demande pourquoi ils ont cité ces produits-là. Est-ce que la manne avait tous les goûts, sauf cela? Pourquoi cela? Parce que c'est...
Non, je disais peut-être pour ne pas leur rappeler l'Égypte, tout simplement.
Peut-être. Mais ils disent parce que ce sont des aliments qui ne sont pas bons pour les femmes enceintes. Ce sont des aliments acides. La citrouille, les concombres, et je ne sais pas quoi d'autre là-bas qu'il citait. Quand vous serez enceinte, mesdemoiselles, ne les mangez pas, c'est pas bon pour le bébé. Voilà pourquoi la manne n'avait pas ses goûts. C'est extraordinaire en passant. Mais là n'est pas le sujet. On voit que ils ont été, se sont plaints. Et Hachem leur a dit, ah, vous voulez de la viande? Eh bien, je vais vous envoyer de la viande. et leur a envoyé les fameuses cailles. Et ils en ont mangé. Il a dit, vous allez en manger, non pas un jour, non pas deux jours, non pas une semaine, non pas un mois, mais jusqu'à ce que vous en vomissiez. C'est ce qui est arrivé. Ils ont eu de la viande, il en est tombé des milliers de tonnes. Ils n'arrivaient plus à les manger tellement c'était... Et ils sont morts. Il y a eu 22 000 morts, il y a eu une épidémie, 22 000 morts. Donc c'est ce qu'on appelle pour Anuchenia. Maintenant, pour Anuchenia Rishona, Mahi, Vaisro, Mehar Hashem. Et ils ont quitté la montagne de Dieu. Juste avant, quelques versets avant ce passage, il est dit, et les béné Israël quittèrent la montagne de Dieu. Alors évidemment, tout le monde s'étonne. Si la deuxième chose est un châtiment, puisque je viens de vous le décrire, en quoi quitter le Sinaï, c'était une punition. Et d'autant d'ailleurs qu'ils sont restés un an au Sinaï après le don de la Torah. Et ils sont partis sur l'ordre de Hachem. Donc en quoi on leur reproche, on semble leur reprocher d'avoir quitté le Sinaï. Alors la réponse, on la voit, c'est là où j'ai marqué numéro 2, elle est dans le Midrash Yelamedenu, qui nous dit « Shenas umear Sinaï, ketino kaboreach bibet asefer » comme un enfant qui se sauve à la fin de l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant, il n'y a pas si longtemps. Il y a un bruit que vous adoriez, comme moi je l'ai adoré, c'est la sonnerie de la fin des classes. Quel kiff. Enfin l'école est finie. Alors on sortait en courant de l'école, de la salle et de l'école, on était libre. On semble dire dans ce midrash que les bénis Israël sont restés au Sinaï, ils ont écouté sagement la Torah, ils l'ont reçue, ils ont dit « Naaseh v'nishmah, nous la ferons, nous l'écouterons ». Mais quand c'est terminé, ils avaient hâte de partir. Ils sont partis, entre guillemets, en courant. Ils se sont sauvés du Sinaï. Voilà en quoi, ça maintenant on va essayer de comprendre dans le fond, en quoi c'est une, pour Anout, c'est un châtiment. Mais d'abord, il faut bien savoir, avoir ce texte en tête. Livroir, ça veut dire littéralement se sauver. Donc les bénis Israël se sont sauvés du Sinaï. De là, passons l'autre feuille. Voilà. Et là, je vais avec vous voir le numéro 3, dans lequel on répond à la question suivante. Qu'est-ce que les Juifs ont appris au Sinaï? Est-ce qu'ils ont juste appris le contenu de la Torah ou bien autre chose? Alors, on répond dans le Midrash, qu'on appelle le Sifri, qui est cité ici dans ce texte-là, de la parashat Ekem. Vous l'avez en numéro 3. Ou là-bas, on dit dans le Midrash Asher, on cite un verset. Asher anochi mitzave etrem hayom. Les commandements que je vous ordonne aujourd'hui. Minayin ata omer, sheim shama devar mipi chatan, keshomea mipi chacham, ashomea mipi chacham, keshomea mipi sanedrin. Ashomea mipi Sanhedrin, keshomea mipi Moshe, veashomea mipi Moshe, keshomea mipi Akadosh Baruch Hu. Alors, regardez ici ce que nous voulons de dire. Le Midrash nous dit, on a appris au Sinaï, non pas qu'est-ce que la Torah, mais qui est-ce qui donne la Torah. Et le Midrash répond, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui écoute la Torah d'un enfant, nous venons de le lire. C'est comme s'il l'écoutait d'un chacham. C'est plus impressionnant d'écouter la Torah d'un grand rave que d'un petit garçon de 10 ans. Et celui qui entend la Torah d'un grand rave, c'est comme s'il l'entendait du Sanhedrin, qui était l'assemblée la plus importante de l'histoire juive, 71, plus grand chachamim de tout Israël. Imaginez qu'au lieu de l'enfant, vous avez le chacham qui vous parle. Au lieu du Chacham, vous avez le Sanhedrin. Et au lieu du Sanhedrin, si vous écoutez la Torah du Sanhedrin, C'est comme si vous l'écoutiez de Moshe Rabbeinu lui-même. Et si vous l'écoutiez de Moshe Rabbeinu lui-même, c'est comme si vous l'écoutiez de Hachem lui-même. En d'autres termes, la boucle est bouclée. La Torah, on l'apprend de Hachem. Qu'est-ce qu'on a appris au Sinaï ? Pas seulement un message, mais l'auteur du message. Hachem est celui qui nous délivre le message de la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que quand ils étaient au Sinaï, leur enseignant, entre guillemets, c'était Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on ne pas avoir de la peine de quitter cet enseignement ? Maintenant, on commence déjà à comprendre mieux. Et il y a plus. Voilà pourquoi je vous ai cité comme numéro 4 une Gemara qui est Brachot, dans laquelle, page 22, dans laquelle on nous dit Veodatam, Veodatam et Bincha, ou Ben Mincha. Yom Asher Amata Lifne Hashem, Enokecha Bachorem. מה לאלן באמה ובעירה ורטת ובזעה? אף כאן באמה ובעירה ורטת ובזעה. En d'autres termes, cette Gemara nous dit, quand tu enseignes la Torah à ton enfant, demain ou à ton petit-fils, la Torah te le demande, tu dois l'enseigner comme on l'a reçu au Sinaï. Comment on l'a reçu au Sinaï? Le Midrash dit, la Gemara, pardon, dit, dans la crainte, dans le tremblement, en transpirant. C'était un moment d'une extraordinaire émotion. On était tétanisé par la grandeur de l'événement, parce que l'événement du Sinaï, c'était, vous avez vu tout à l'heure le tonnerre, au Sinaï il y avait des tonnerres 100 fois plus puissants, les éclairs, la voix de Hachem qui résonnait d'une puissance de méga, de kilowatt. Il y avait la montagne qui tremblait. Les bénis d'Israël étaient là, terrorisés, parce que c'était le Créateur qui leur parlait. Et il fallait réaliser quelles sont les conditions. Et la Torah nous dit donc ici dans ce texte-là, que quand on enseigne la Torah, il faut que celui qui la reçoit soit dans cet état, entre guillemets, de transe. On ne dit pas la Torah couché sur une plage de sable chaud, avec les vagues qui nous caressent la plante des pieds, de l'eau tiède, bien sûr. Non, la Torah s'étudie sérieusement, comme si on était au Sinaï, en train de trembler, mais ça ne suffit pas. En effet, le texte suivant, numéro 5, se trouve dans le Midrash de Shira Shirim, où là-bas il y a un verset extraordinaire qui dit « Ishakeni mineshikot piou » Il m'embrasse des baisers de sa bouche. La Torah orale s'appelle la Torah chez Baalpé, la Torah qui est sur la bouche. On dit qu'Hachem nous a enseigné la Torah en nous embrassant sur la bouche. C'est quoi? Le baiser sur la bouche est un geste d'amour qui est réservé au couple. C'est comme ça qu'Hachem nous a donné la Torah. Ça veut dire, en d'autres termes, l'étude de la Torah, c'est pas seulement une trouille terrible, c'est un baiser, un acte d'amour. C'est comme ça qu'il faut ressentir la Torah. On voit donc que la Torah, c'est la fusion entre la crainte et l'amour. C'est un phénomène rarissime qu'on ne peut pas éprouver autrement. Et ailleurs, il y a à la fois l'expression de l'amour de Dieu, et de la crainte de Dieu. Si vous voulez un peu vous faire comprendre cette idée-là, imaginez que vous avez demandé un rendez-vous à un personnage très important. Vous le redoutez. Ce monsieur très important, je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est très difficile d'en trouver, mais imaginons, il vous donne le rendez-vous, vous êtes devant lui, vous êtes heureux d'être devant lui parce qu'il vous a donné le rendez-vous, et vous redoutez d'être devant lui. C'est à la fois la crainte et l'amour qui vous envahissent. On peut éprouver ça, par exemple, quand on est, en théorie, devant son maître, devant son père ou sa mère, on doit éprouver ce sentiment. Parce que la Torah nous dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu craindras ton père et ta mère. Honorer, ça veut dire les gâter. Honorer nos parents, d'après la Torah, ça veut dire leur donner à manger, les habiller, les accompagner, les entourer d'affection. Et d'un autre côté, tu dois le craindre, ça veut dire ne pas t'asseoir à sa place, se lever quand il passe, etc. Cette conjonction de deux sentiments contradictoires, c'est ce que la Torah représente pour nous. Maintenant, nous en arrivons au numéro 6, le texte dans lequel on nous dit que les hommes de la grande assemblée, qu'est-ce qu'il peut me dire qui sont les gens de la grande assemblée? Pardon?
Les personnes âgées?
Non.
Les 70 membres?
Pardon?
Les 70 membres de la grande assemblée?
Pas 70, 120.
120?
T'es pas loin, non? 70, c'est le Sanhédrin. 120, c'est le nom qu'on donne à Cheikh Knesset HaGadola, les hommes de la grande assemblée, à une assemblée qui s'est tenue pendant quelques décennies à la fin de l'époque des prophètes. C'était au moment là où le premier temple existait. Et il y avait dans cette assemblée les 70 anciens membres du Sanhédrin dont on vient de parler. Il y avait en plus les derniers prophètes, historiquement. Malachi, Malachi.
Mordechai,
non?
Mordechai,
c'est
bien
après. Un peu après, entre les deux. Ouais.
C'est
Ezra. Ezra ou Nehemiah? Hein? Ezra ou Nehemiah? Pas tout à fait. Il y avait Malachi. Ensuite. Est-ce que vous avez un texte sur le Tanakh?
Je suis en train de le
faire. On voit le texte des 12 petits prophètes.
Habakkuk.
Alors.
Il démarre.
Oui, pas moi. Là. Alors, les derniers, c'est Malachi, Zechariah, Hagi, Tzfania, Habakkuk,
voilà.
Nahum.
Après, oui, ça, Habakkuk. Bon, tu es un vrai de vrai.
On dirait bien.
Hein, j'aime bien. Donc, il y avait les derniers prophètes et les membres du Sanhédrin. Ils ont formé en tout une assemblée unique qui a duré quelques années et qui a pris toutes les décisions les plus importantes de la vie juive qui ont cours jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples. C'est eux qui ont institué le Birkat Amazon. C'est eux qui ont institué la Hamida qu'on fait tous les jours. Dans son texte. C'est eux qui ont institué ce qui nous intéresse ici, Birkat HaTorah. Bahurata Hashem, le Kenmecholam, Asher Baharbanu, Mikola Amim, Elatalanu, et là-bas il y a tout le texte. Et dans cette Beracham, il y a marqué Ve'arevna Hashem, le Kenu, Adivre Torah, Avefinu. Je vais vous traduire. Et rend les paroles de la Torah agréables à notre bouche. Qu'elles soient douces. C'est-à-dire, on prie. Pour que la Torah soit douce à notre bouche. Or, le Rav pose une question. Il dit, c'est étonnant, parce qu'on voit dans le psaume 19, il y a marqué que la Torah, elle est metokim midvash, plus douce que le miel, et que les rayons du suc de la ruche. Donc il n'y a pas plus doux, on n'est pas dans le monde de goût plus doux que le miel. La Torah est comparée à cela. Donc quoi? On prie pour quelque chose qui existe. On dit, on a fait en sorte que j'apprécie le miel. En fait, même si une chose est douce, il se peut que nous, on ne s'aperçoive pas de cela. En fait, la nature de la Torah, c'est d'être douce. Et on dit que si on veut savoir si un maître est un vrai maître, est-ce qu'il enseigne des choses douces? Tous les chemins de Torah sont agréables. Donc, une des manières de vérifier l'authenticité de l'enseignement, c'est de voir dans quelles conditions il est délivré. Mais là, on voit qu'on prie pour que la Torah soit douce. Il y a donc, comme on vient de le dire il y a quelques instants, une nécessité de ressentir la Torah douce. Donc dans le Mahamad Har Sinai, on a vécu tout ça. Bon, ils ont ressenti la gravité de la Torah, le tremblement et la douceur de la Torah. Donc ils ont ressenti tout ça. Voilà ce qu'était le Har Sinai. Hachem comme enseignant, la Torah comme contenu, et pour méthode, la douceur alliée à la sévérité. Donc c'était une expérience unique. Mais on nous dit que depuis le don de la Torah, tout endroit où on va étudier la Torah, dans une yeshiva, dans la salle à manger, devant ces trucs, partout, on est au Sinaï. Là, vous ne l'avez pas vu, nous sommes au Sinaï. Même s'il n'y a pas le décor topographique. Toute Torah vient du Sinaï. Et de cela, on va se sauver? Bien sûr que non. Alors en fait, voilà pourquoi ça s'appelle un châtiment. En fait, c'est quoi un châtiment? C'est de ne pas s'apercevoir de tout cela. Il y a malheureusement des millions de juifs dans le monde pour lesquels la Torah c'est une religion, c'est-à-dire une somme d'obligations dont ils n'ont que faire, qui les intéressent très peu, et ils ne vont pas y aller avec plaisir. Vous, ce qu'il y a de magique dans votre cours, celui que j'ai l'honneur de vous donner depuis quelque temps maintenant, c'est que vous l'avez souhaité. C'est vrai. Bon. Lorsque Jonathan, c'est l'abruti qui est à ma gauche, là, ici, il m'a demandé, voilà, il y a des jeunes qui ont demandé un cours, est-ce que vous pouvez leur donner? Alors, comment j'ai décidé depuis que je suis plus grand en titre, enfin, en fonction, pardon, depuis on est dans des domiciles communautaires, j'avais donc mon temps pour l'étude personnelle et pour l'enseignement, et j'ai décidé de donner la priorité aux jeunes, comme vous le savez. Parce qu'avec les jeunes, on investit pour la vie. Et j'ai dit d'accord. Il m'a dit à Jonathan, mais ils veulent un cours toutes les semaines. J'ai dit d'accord. Je demande le privilège de choisir deux choses, l'heure et le lieu. Bon, compte tenu de ce que j'ai un peu de difficulté à me mouvoir, j'ai souhaité que ça ait lieu chez moi. Et l'heure, avec d'un commun accord avec vous, on trouve un accord. Mais surtout, je crois que ce qui m'a touché, c'est que vous êtes dans la véritable dimension de l'étude de la Torah, c'est-à-dire on y vient avec plaisir. On en part triste. Voilà pourquoi je vais m'arrêter maintenant, parce que j'ai d'abord déjà 8 heures, et que pour vous laisser un peu le temps de vous remettre. Mais que je souhaite toute votre vie que chaque étude de Torah soit pour vous un grand moment, comme le fut le Sinaï, pour que jamais on se sauve de là-bas. Et en fait, c'est ça qui est la punition. En fait, celui qui ne comprend pas ce que je viens de dire, il est puni. C'est comme s'il reçoit des coups. C'est un bonheur de la découvrir et un malheur de ne pas s'en apercevoir. Comme j'ai cité au cours de Roche lundi, le rabbi Nachman de Breslav, qui dit une phrase admirable entre toutes, il dit le monde, je ne sais pas si vous vous rappelez parce que j'ai dit beaucoup de choses lundi soir, le monde est rempli de lumière, mais il suffit de fermer les yeux pour ne pas s'en apercevoir. La Torah, c'est la même chose. Elle a une très grande lumière, c'est dommage de fermer les yeux. Surtout quand elle est près de vous. Voilà.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.